Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Marc 4, 21 à 34. Il leur disait encore: est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore: il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore: à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais, une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Maintenant, Matthieu 13, 44 à 51. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage. Puis on s'assied, on recueille dans des vases ce qui est bon, et l'on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, répondirent-ils. Et nous allons maintenant, juste pour un verset, dans l'Ancien Testament, au moment où Daniel explique le rêve de Nebuchadnezzar. Nous lisons Daniel 2, le verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. » Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et revenons dans le Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36. Un verset pour terminer dans l'Évangile de Jean. Jean 18, verset 36. Jésus est avec Pilate, il est accusé d'un crime de mort, et voilà, dans le dialogue avec Pilate, le juge, Voici ce que Jésus dit. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. »
Un ballon de baudruche, quand on a des anniversaires, des fois des ballons, un ballon de baudruche sans hélium ne peut pas voler. Et notre cœur ne peut pas croire et comprendre si le Saint-Esprit ne fait pas son œuvre en nous ce matin. Et nous continuons à compter sur son œuvre pour ce que je vais dire et ce que nous allons entendre. Nous aimons ici, dans cette église, Jésus-Christ. C'est vrai, non? Nous aimons Jésus-Christ et nous désirons que chacun puisse le rencontrer et l'aimer. Car il est le roi d'un royaume qui durera éternellement. Un royaume de paix et de bonheur. Jésus est le roi qui a donné sa vie pour racheter les citoyens de son royaume. Jésus est le roi qui a donné sa vie pour racheter les citoyens de son royaume. Et l'église locale est l'ambassade de ce royaume. Le royaume de Dieu, qui est aussi le royaume de Jésus-Christ, ou encore appelé le royaume des cieux, se manifeste déjà sur la terre par la présence des citoyens de ce royaume, dont la carte d'identité ou le passeport est le baptême. Jésus-Christ a parlé de son royaume lorsqu'il est venu sur terre, il y a maintenant 2000 ans. Et ces paroles ont été mises par écrit afin que nous puissions les lire aujourd'hui encore avec confiance. Pierre, l'un des disciples de Jésus, qui était proche de lui, a raconté ce qu'il a vécu et un de ses scribes, Marc, l'a écrit. Et ce journal de Pierre écrit par Marc, c'est ce que nous appelons communément l'Évangile, selon Marc. Il existe encore d'autres écrits, comme celui de Matthieu, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui a consigné ce que Jésus a fait. Ou encore Luc, un historien qui a posé des questions, qui a pris des renseignements pour en fait raconter ce que Jésus a vécu. Et même Jean, le plus proche de Jésus, a écrit après les trois autres pour compléter le récit. Alors c'est vrai que bien des paroles se retrouvent dans Matthieu, Marc et Luc, et parce qu'ils décrivent en fait les événements qui concernent la même personne. Alors parfois l'angle de vue change, et cela fait dire à certaines personnes qu'il y a des contradictions. Mais cela ne résiste pas à une lecture sérieuse de ces textes. Et dans le journal de Pierre, écrit par Marc, qui nous intéresse ce matin, eh bien nous trouvons quatre courts articles dans ce journal qui nous parlent de paraboles que Jésus a dites concernant le royaume de Dieu. Alors nous avons vu la dernière fois que, lors de l'explication des paraboles, qu'il révèle les mystères du royaume de Dieu. Ça, c'est un des buts des paraboles. Et Marc ne parle pas de toutes les paraboles que Jésus a dites, comme la parole de l'ivraie, la parabole du levain, la parabole du trésor caché ou de la perle précieuse ou d'autres encore. Et nous avons parlé la dernière fois de la parole de référence du semeur, avec les quatre terrains, qui déterminaient si la semence allait porter du fruit. Et aujourd'hui, nous allons voir quatre paraboles qui nous indiquent d'autres aspects du royaume de Dieu. Nous verrons la lampe sur le chandelier, la mesure généreuse, la semence qui porte du fruit, la petite graine qui devient grande. Ces quatre courts articles du journal de Pierre écrit par Marc structurent la prédication qui aura ces quatre points aujourd'hui et qui a pour titre « Connais-tu le royaume de Dieu ?» Connais-tu le royaume de Dieu ? Et nous verrons, dans un premier temps, qu'il n'y a rien à cacher dans ce royaume. Dans un deuxième temps, que dans ce royaume, on donne pour recevoir. Troisièmement, que parfois il faut être patient, qu'il faut patienter pour voir le fruit. Et quatrièmement, que dans ce royaume, nous ne méprisons pas les petits commencements. Commençons par le premier article. Rien à cacher, la lampe sur le chandelier. Et je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes parce que nous allons relire ces versets dans le chapitre 4 de Marc, les versets 21 à 23. Donc c'est Jésus qui parle ici. Il leur disait encore, donc c'est après avoir parlé de la parabole du semeur avec les quatre terrains et de l'avoir expliqué. Il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? n'est-ce pas, sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doit être manifesté, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors à l'époque de Jésus, on n'entrait pas dans une maison et on pressait sur le bouton et la lumière s'allumait. Ça ne marchait pas comme ça. En fait, nous utilisions des lampes qu'il fallait allumer avec du feu. Alors souvent, on n'a plus beaucoup de ces choses maintenant, mais pour vous aider à vous imaginer, une petite théière, hein, où dedans il y avait de l'huile, et puis où le thé sort, il y avait une mèche qui sortait. Et puis là, hop, on allumait, puis c'était la lampe. Ok ? Donc imaginez que vous arrivez à la maison, il fait sombre, le père de famille prend une lampe, allume la mèche, et place la lampe sous le saladier, ou sous le lit. Que penseriez-vous ? Sûrement la même chose que les premiers auditeurs de Jésus. Mais non, la lampe doit être placée de manière à éclairer la maison. Donc au moins sur la table ou sur un lieu plus élevé. Hein? Mettre la lampe sur un lieu propice à éclairer, c'est semer la parole de Dieu. Ne pas cacher la vérité que Dieu nous a révélée alors qu'elle est adéquate ou même demandée dans un moment sombre. Jésus affirme que rien de caché ne doit être manifesté, rien de couvert qui ne doit venir au grand jour. C'est une marque du royaume de Dieu. Hein? Et nous pouvons comprendre cela au moins dans deux directions. Première direction, plutôt dirigée vers nous-mêmes. Ce que quelqu'un est réellement sera un jour manifesté, même s'il cherche à cacher cela le plus longtemps possible au plus de monde possible. Ça va être manifesté. Le royaume de Dieu est pour les authentiques, pas pour les cachotiers. Et à ce sujet, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Tout ce que vous confessez à Dieu vous sera pardonné. Il n'y a pas besoin de cacher. Et il vous donnera la force de le confesser à ceux qui sont concernés. Rien qui doit être caché. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui veulent paraître bien, mais pour ceux qui sont intègres, authentiques et humbles. Et une deuxième direction dans laquelle nous pouvons voir cela, c'est tourner vers l'autre plutôt. Hein. La vérité finit toujours par être connue. La vérité finit toujours par être connue. Alors si cette expression n'est pas exactement ainsi dans la Bible, ce que Jésus dit ici le confirme. Dieu jugera un jour toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées. La vérité sera mise à jour si cela n'a pas été fait avant. Et l'évangile de Jésus-Christ est ici à nouveau une bonne nouvelle, parce que nous pouvons déjà annoncer la vérité du salut par Jésus-Christ à ceux qui le recevront, afin qu'ils ne soient pas jugés, afin que leurs œuvres ne soient pas mises en lumière pour le jugement, mais plutôt que leurs œuvres soient mises en lumière maintenant pour le pardon, parce que le jugement a été pris par Jésus-Christ. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui cherchent des connaissances secrètes ou qui refusent la vérité simple du salut en Jésus-Christ, mais le royaume de Dieu est pour ceux qui aiment la vérité, qu'ils la cherchent et qu'ils la gardent. Rappelons-nous aussi au passage qu'une lampe ne peut pas s'allumer toute seule, que sa mèche a besoin de quelqu'un qui l'allume. Et c'est Dieu qui allume notre mèche et il nous donne l'huile de son esprit pour que nous puissions continuer à briller. Qui a des oreilles ici ? Alors que celui qui a des oreilles entende ces paroles et les comprenne avec son cœur, afin que notre lampe ne soit pas sous le boisseau. Le boisseau, c'était un récipient qui permettait de mesurer. Afin que notre lampe ne soit pas sous le boisseau ou sous le lit. C'est vrai qu'il y a peu de temps, avec Marlise, nous avons regardé un film intitulé « Je n'ai pas honte ». Il est basé sur une histoire vécue d'un cheminement d'une jeune fille qui a choisi de ne pas cacher sa foi. Alors, c'était pas le début de sa vie. Mais un jour, Rachel Scott comprend que sa lampe est sous le boisseau de la peur du regard des autres. Elle témoigne alors clairement devant sa classe de sa foi. Et elle dira, elle écrira, « Je ne peux pas cacher la lumière que Dieu a mise en moi. Je ne veux pas cacher la lumière que Dieu a mise en moi. » C'est plutôt « je ne veux » ici. « Si je dois tout sacrifier, je le ferai. » Et tout le monde à l'école savait qu'elle était chrétienne. Elle cherchait humblement à vivre sa foi tout en étant consciente de ses propres manquements. Et le jour où deux jeunes remplis de haine sont venus pour commettre la tuerie de Columbine en 1999, puisque c'est basé sur cette histoire, elle a dû faire un choix. Ils lui ont demandé si elle croyait toujours en Dieu, avant de la tuer devant sa réponse affirmative. Alors, nous n'allons probablement pas devoir affirmer notre foi devant une personne prête à nous abattre. Probablement pas. Mais sommes-nous prêts à affirmer notre foi devant nos collègues ? Nos voisins, nos camarades de classe, savent-ils que nous croyons en Jésus-Christ qui est notre Sauveur et notre Roi? Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ce film, mais dans ma vie aussi, ça m'est arrivé. Où on se dit, mais ils savaient même pas que j'étais chrétien. C'est terrible, ça. Ceux qui sont autour de vous, qu'on côtoie régulièrement, savent-ils que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Roi? Si notre lampe est sous un boisseau, pourquoi ne vivrions-nous pas un aspect important du royaume de Dieu qui est, car il n'est rien de caché qui doivent être manifestés, rien de couvert qui ne doivent être mis au grand jour. Si ta lampe n'est pas allumée ou que tu ne sais pas si tu es du royaume de Jésus-Christ, eh bien n'hésite pas à prier Dieu et à lui dire que tu veux venir, que tu fais confiance en Jésus-Christ, que tu confesses qu'il y a bien des mauvaises choses cachées chez toi et que tu désires mettre en lumière devant Dieu pour qu'il te pardonne. Avant qu'il n'y mette la lumière pour le jugement. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien de caché. Ne cherchez donc pas à cacher vos péchés à Dieu ou aux personnes concernées par vos péchés, car il les mettra au jour. La culture du secret ne fait pas partie du royaume de Dieu. Tout est révélé. C'est le premier aspect du royaume qui nous permet de comprendre ce que Pierre voulait nous dire ici par cette parabole dans son journal que Marc a écrit. Il n'y a rien à cacher, la lampe doit être mise sur le chandelier. Voyons maintenant un deuxième aspect. Donner pour recevoir, la mesure généreuse. C'est les versets 24-25, je vous invite à aller relire avec moi Marc 4, 24 et 25. Il, donc Jésus, leur disait encore: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors juste pour bien comprendre ici l'image que Jésus prend, nous devons imaginer que les gens allaient acheter leur blé au marché. C'était pas dans des sacs qui sont déjà fermés, etc. Donc c'est pas comme ça que ça se passait. Donc ils allaient au marché acheter leur blé et le marchand utilisait une mesure pour mettre le blé dans notre sac. Et on payait ensuite le nombre de mesures qu'il y mettait. Et tous les marchands n'avaient pas la même mesure. Il y a des plus grandes, des plus petites. Et Jésus, dans sa parabole, sous-entend que chaque marchand va ensuite s'approvisionner de blé. Et là, celui qui fournit le blé va utiliser la mesure qu'il utilise au marché. Okay? Donc, celui qui avait une grande mesure, eh bien, va prendre une grande mesure pour lui donner du blé, et même lui donner encore plus, puisqu'en fait, il en donne beaucoup. Et le marchand qui utilisait une petite mesure, ben, il prend la petite mesure pour lui donner ce blé. Et comme, ben, il a beaucoup de peine à donner son blé, à transmettre son blé, ben, à la fin, il le lui retire même complètement. Jésus donne ici un avertissement, soyons donc attentifs. Nous pourrions dire que ce que nous transmettons, nous le gagnons. Ce que nous transmettons, nous le gagnons. Et ce que nous n'utilisons pas, nous le perdons. Ce que nous transmettons, nous le gagnons. Et ce que nous n'utilisons pas, nous le perdons. Et le royaume de Dieu est caractérisé par des personnes qui donnent ce qu'elles reçoivent. Pourquoi ? Parce que ces personnes savent que leur roi sera leur fournisseur. Pourquoi retenir l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la grâce et la paix? Pourquoi retenir tout cela? Alors que le roi donne avec abondance. Transmettons tout cela et nous le gagnerons. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez. Tout ce que nous entendons, c'est pour ça qu'il est dit, il est parlé au début, hein, prenez garde à ce que vous entendez. Eh bien, pratiquons-le. Tout ce que nous entendons de la parole, pratiquons-le et nous le gagnerons. Tout ce que nous entendons et que nous pratiquons pas, nous le perdrons. Mais le royaume de Dieu est généreux. Et plus nous donnons ce qui caractérise ce royaume, plus nous recevrons pour donner. Alors si tu ne connais pas ce royaume généreux, approche-toi de Jésus-Christ qui s'est totalement donné et qui sauve et guide ceux qui viennent à lui. Un royaume généreux. La lampe sur le chandelier, la mesure généreuse, nous permettent de comprendre déjà deux aspects du royaume de Dieu. Voyons maintenant un troisième aspect. Les versets 26 à 29, que j'intitule « Patienter pour fructifier » ou « La semence qui porte du fruit ». Donc verset 26. Il, Jésus, dit encore « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe, puis l'épi, enfin le blé, bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alors la parabole du semeur et des quatre terrains nous a permis de comprendre que le terrain est important, c'est vrai. Mais ici Jésus-Christ souligne une autre chose, il s'agit de la semence elle-même. La semence, lorsqu'elle est mise dans la bonne terre, pousse toute seule. Elle n'a pas besoin d'être dorlotée, caressée, encouragée. Il ne faut pas la compresser, l'étirer, encore moins la briser ou l'écraser, non. D'ailleurs, tirer la graine ne sert à rien.
Je sais pas si vous avez déjà essayé, hein.
Tirer la graine, ça sert à rien. La déterrer à tout moment pour voir si elle pousse fait l'effet contraire. En fait, c'est une confiance totale en celui qui fait germer et croître qui est demandé. C'est une confiance totale en celui qui fait germer et croître qui est demandé. Lorsque la parole de Dieu est semée dans une bonne terre, nous n'avons pas à craindre. L'arrosage par la prière est utile. C'est vrai. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Alors certains pensent déjà tout de suite à ce passage, et je vais vous lire dans Corinthiens, quand Paul dit ceci, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3, 6 à 9. Donc la question qu'on peut se poser, c'est que semons-nous ? Que semons-nous ? Des banalités pour ne pas choquer ? Des slogans sympas pour attirer ? Des idées positives pour être dans le vent ? Des critiques de tout ce qui ne va pas dans le monde ? Des bonnes intentions qui ne sont jamais mises en pratique ? Des affirmations personnelles sur tout ce qui nous entoure, mais que semons-nous ? En fait, la seule semence qui donne du bon fruit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Or, pourquoi pas cette semaine, semer la parole de Dieu à deux ou trois personnes autour de nous qui n'ont pas l'habitude d'entendre cette parole ? Ça peut être par quelque chose qu'on dit. J'ai lu quelque chose ce matin dans ma Bible. Ou par quelque chose qu'on donne, un tract ou un évangile, ou par quelque chose qu'on écrit. Enfin, il y a toutes sortes de moyens de le faire. Hein. Mais pourquoi pas cette semaine se dire, mais je vais semer de la bonne graine et prier qu'elle arrive dans la bonne terre. Évidemment, le terrain, nous ne pouvons pas nous le modifier, mais nous pouvons prier l'Éternel pour qu'il le laboure. Puis arrosons cette parole et soyons patients en faisant confiance en celui qui fait croître. Le royaume de Dieu est pour ceux en qui la semence a grandi. Voilà pour qui est le royaume de Dieu. Il est pour ceux en qui la semence a grandi et porte du fruit. Le semeur est patient. Oh, il est patient avec moi en tout cas, mais je pense avec vous aussi. Il est patient. Et il se réjouit du bon fruit. Rappelons-nous, c'est vrai que tout arbre qui ne produit pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. Et que l'ivraie sera brûlée. Donc veillons à ce que ce soit la bonne semence qui soit semée dans notre champ et dans celui de ceux qui sont autour de nous. Et soyons confiants que la bonne semence portera du fruit. Lorsque la graine de l'évangile est plantée en nous, nous sommes transformés on pourrait dire en l'image de cette semence, hein, parce que quelque part c'est Christ cette semence. Et j'aime bien ce texte dans 2 Corinthiens 3 qui dit « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 à 4, 2. Et ce texte nous rappelle en fait les premières caractéristiques du royaume que nous avons vu. Rien à cacher, donner pour recevoir et patienter pour voir le fruit. Et nous arrivons à la quatrième caractéristique du royaume de Dieu. C'est pas de mépris pour les petits commencements, ou la petite graine qui devient grande. C'est donc Marc 4, verset 30. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, et par quelles paroles la représenterons-nous » Il est semblable à un grain de moutarde, qui lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que tous les plantes potagères et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples. Or Jésus ne fait pas de botanique ici. Il n'est pas en train d'expliquer quelle est la plus petite graine du monde. Mais non. Mais il semble, c'est vrai que c'est la plus petite graine semée à l'époque. C'est pour la notion du... C'est très petit par rapport à d'autres. Si vous prenez une graine de moutarde ou bien une graine de haricot, c'est plus grand la graine de haricot. Pourtant, la plante devient plus grande au moutardier. Est-ce que vous avez déjà regardé un petit peu des graines? Une fois, vous prendrez par exemple une pomme et vous regarderez le pépin à côté d'un pommier. Je trouve ça intéressant et même impressionnant de voir une petite graine et de voir le grand pommier juste à côté. Bon, on peut aussi faire ça avec des tomates. Vous prenez une tomate et puis regardez le plant de tomate. Ouais, vous pouvez faire ça avec des carottes, enfin, vous pouvez faire ça avec toutes les graines. Mais je trouve intéressant de le faire, de nous rendre compte, en fait, cette petite graine. Et à vous dire que le royaume de Dieu a la même puissance que cette petite graine. La même puissance que cette petite graine. C'est tout petit, ça a l'air de rien, mais cette petite graine contient la puissance pour devenir une plante ou même un arbre. Waouh, fabuleux. Donc, regardez les petites graines. Et quand vous êtes dans des situations où vous dites, ouais, mais bon, mon témoignage, il est tellement rien du tout. Bon, allez voir une graine, s'il vous plaît. Et comprenez qu'est-ce que cette graine devient lorsqu'elle est plantée dans la bonne terre. Le royaume de Dieu, selon Jésus, qui est roi, qui est le roi, n'est pas un royaume qui impressionne le monde, qui enflamme ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu, qui motive ceux qui aiment les plaisirs passagers et faciles. Non, il n'est pas comme ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est petit et paraît misérable, et pourtant il grandit. Et Jean d'ailleurs a vu une vision de ce que nous verrons. Et il dit dans Apocalypse, « Après cela je regardais, voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. » Il se tenait devant le trône de l'agneau, vêtu de robe blanche et de palme à la main. Il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » C'était tout petit et c'est devenu grand. Ce qui paraissait si petit, si méprisable, est devenu un lieu où des hommes de toute terre se rassemblent. C'est ça le royaume de Dieu. Et ici, c'est une ambassade de ce royaume de Dieu. Peut-être vous souvenez-vous d'un rêve d'un des plus grands chefs politiques de tous les temps. Il a vu une statue d'une splendeur extraordinaire, avec sa tête en or, sa poitrine en argent, ensuite c'était les cuisses en bronze et les pieds en fer, enfin les jambes en fer. Voilà, c'est impressionnant, une statue qui impressionnerait toute personne qui la regarderait. Et là, pendant que Nebuchadnezzar, puisque c'est de lui qu'il s'agit, pendant qu'il regarde, une pierre se détache de la montagne. Non mais une pierre, c'est quoi une pierre face à une statue si magnifique? C'est quoi? Eh bien cette pierre se détache de la montagne. Et face à cette splendide statue qui, en fait, représente les gouvernements du monde, elle frappe cette statue. Et petit à petit, devient une montagne qui remplit toute la terre. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est l'explication que nous avons entendue tout à l'heure dans Daniel. Vous savez, 12 hommes peureux formaient la base de la manifestation de ce royaume sur la terre. La première ambassade, c'était 12 hommes peureux qui avaient peur. Et de nombreux ennemis ont cherché à éliminer l'Église et la foi biblique. Et pourtant, l'Église est toujours là. Et Jésus-Christ la prépare pour la faire paraître glorieuse devant lui. N'ayons pas peur des petites choses, qui paraissent même ridicules aux yeux du monde. Ne méprisons pas les petits commencements. N'ayons pas peur des petites choses, qui paraissent même ridicules aux yeux du monde. Ne méprisons pas les petits commencements, par exemple d'un stand apeuseux, de distribution d'invitations, de traités chrétiens, de distribution du Nouveau Testament, ou tout ce qui paraît ridicule aux yeux du monde. Et bien souvent même aux yeux de chrétiens encore totalement imbibés des idées du monde. Quelqu'un a dit, notre témoignage peut nous paraître bien faible, et nous pouvons considérer tous nos efforts, que tous nos efforts donnent de bien maigres résultats. La parole de Dieu n'en est pas moins un extraordinaire agent de croissance. Et ça, il faut vraiment le comprendre. On ne verra pas toujours, nous, ce qui va se passer. Un élément qui m'a frappé dernièrement, c'est l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'apôtre Paul à la fin de sa vie. Nous, c'est le grand apôtre hein, qui a amené tellement de choses. À la fin de sa vie, il dit qu'il était abandonné de tous, dans une situation risible, une situation ridicule aux yeux du monde. Et pourtant, cette petite chose ridicule aux yeux du monde, cette graine, vous avez vu ce que Dieu a fait? On en est encore béni aujourd'hui. De l'œuvre de Dieu au travers de l'apôtre Paul. Nous devons savoir que le meilleur est devant nous. Le royaume glorieux et bien plus extraordinaire pour lequel l'Église est une ambassade nous attend. N'ayons pas honte de nos ambassades. Car le royaume qui se forme et qui sera manifesté au retour de Jésus-Christ sera grandiose, parfait, saint, bon, juste, rempli d'amour, sans faille. Et débordant de bienveillance. C'est ça le royaume que nous sommes appelés à représenter et à annoncer. En conclusion, un royaume lumineux où il n'y a rien à cacher. Un royaume lumineux où il n'y a rien à cacher. Un royaume généreux. Un royaume généreux où l'on donne pour recevoir. Un royaume efficace. Un royaume efficace où la semence porte du fruit. Un royaume bienveillant. Bienveillant, où le mépris n'a pas sa place et où ce qui est petit devient grand. Faites-vous partie de ce royaume? Comment y entrer et y vivre? Eh bien, par la repentance et la foi en Jésus-Christ que nous vivons. Faites-vous partie de ce royaume? Si oui, alors comment le représentez-vous? Et sinon, pourquoi ne chercheriez-vous pas à en faire partie? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nos paroles, notre imagination, notre réflexion, notre intelligence est bien faible pour comprendre tes œuvres, pour comprendre ton royaume qui est si extraordinaire, qui dépasse notre imagination, mais qui est vu comme étant si méprisable et si petit. Seigneur, nous voulons te prier de nous donner cette grâce et cette foi, de nous donner cette joie de saisir la grâce que nous avons de pouvoir faire partie de ce royaume en Jésus-Christ. Un royaume où nous pouvons donner de l'amour à n'en plus finir et ainsi en être remplis, à ne plus pouvoir en supporter. Seigneur, nous sommes dans une situation qui est juste extraordinaire. Tu es ce Dieu qui veut que tout soit mis en lumière, non pas pour nous mettre mal à l'aise, non pas pour nous écarter lorsque nous voyons ce que la lumière présente, non, pour que nous puissions être libres, libérés, afin que nous puissions être dans une situation où, quelle que soit la lumière qui est mise sur nous, nous sommes paisibles, non pas parce que nous sommes pas honteux de ce que nous aurions pu faire de mal, mais parce que nous savons que Jésus-Christ a payé pour cela et que nous en sommes libérés. Seigneur, nous n'avons pas besoin de paraître dans ce royaume. Nous avons simplement besoin d'être ces serviteurs qui acceptent l'œuvre de Christ, qui acceptent cette lumière qui nous éclaire. Cher Mateur, merci aussi tout particulièrement pour cette image de la petite graine qui est si encourageante. J'aimerais te prier que nous puissions, Seigneur, chaque fois que nous voyons une graine, nous rappeler que le royaume de Dieu et ce que tu fais est comme cette petite graine. Toute la puissance d'un arbre s'y trouve. Eh bien, Seigneur, que cette semaine, nous puissions être encouragés par cela et que nous puissions semer ta parole. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.